La conquête du pain, deuxième partie. Chapitre 3. Eh bien, il nous semble qu'il n'y a qu'une réponse à cette question. Reconnaître et hautement proclamer que chacun, quelle que fût son étiquette dans le passé, quelle que soit sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes ou son incapacité, possède avant tout le droit de vivre, et que la société se doit de partager entre tous, sans exception, les moyens d'existence dont elle dispose. Le reconnaître, le proclamer et agir en conséquence. Faire en sorte que, dès le premier jour de la Révolution, le travailleur sache qu'une ère nouvelle s'ouvre devant lui, que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des palais, de rester à jeun tant qu'il y aura de la nourriture, de grelotter de froid auprès des magasins de fourrures. Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu'enfin, dans l'histoire, il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs. Ceci ne pourra s'accomplir par décret, mais uniquement par la prise de possession immédiate, effective, de tout ce qui est nécessaire pour assurer la vie de tous. Telle est la seule manière vraiment scientifique de procéder, la seule qui soit comprise et désirée par la masse du peuple. Prendre possession, au nom du peuple révolté, des dépôts de blé, des magasins qui regorgent de vêtements, des maisons habitables, ne rien gaspiller, s'organiser tout de suite pour remplir les vides, faire face à toutes les nécessités, satisfaire tous les besoins, produire, non plus pour donner des bénéfices à qui que ce soit, mais pour faire vivre et se développer la société. Assez de ces formules ambiguës telles que le droit au travail, avec laquelle on a leurré le peuple en 1848 et cherche encore à le leurrer. Ayons le courage de reconnaître que l'aisance, désormais possible, doit se réaliser à tout prix. Quand les travailleurs réclamaient en 1848 le droit au travail, on organisait des ateliers nationaux ou municipaux et on envoyait les hommes peiner dans ces ateliers à raison de 40 sous par jour. Quand ils demandaient l'organisation du travail, on leur répondait « Patientez, mes amis, le gouvernement va s'en occuper, et pour aujourd'hui, voici 40 sous. Reposez-vous, rude travailleur, qui avez peiné toute votre vie. » Et en attendant, on pointait les canons. On levait le banc et l'arrière-ban de la troupe. On désorganisait les travailleurs eux-mêmes par mille moyens que les bourgeois connaissent à merveille. Et un beau jour, on leur disait « Partez pour coloniser l'Afrique, ou bien nous allons vous mitrailler. » Tout autre sera le résultat si les travailleurs revendiquent le droit à l'aisance. Ils proclament par cela même leur droit de s'emparer de toute la richesse sociale, de prendre les maisons et de s'y installer selon les besoins de chaque famille, de saisir les vivres accumulés et d'en user de manière à connaître l'aisance, après n'avoir que trop connu la faim. Ils proclament leur droit à toutes les richesses, fruits du labeur des générations passées et présentes, et ils en usent de manière à connaître ce que sont les hautes jouissances de l'art et de la science, trop longtemps accaparées par les bourgeois. Et, en affirmant leur droit à l'aisance, ils déclarent, ce qui est encore plus important, leur droit de décider eux-mêmes ce que doit être cette aisance, ce qu'il faut produire pour l'assurer et ce qu'il faut abandonner comme sans valeur désormais. Le droit à l'aisance, c'est la possibilité de vivre comme des êtres humains et d'élever les enfants pour en faire des membres égaux d'une société supérieure à la nôtre, tandis que le droit au travail est le droit de rester toujours l'esclave salarié, l'homme de peine, gouverné et exploité par les bourgeois de demain. Le droit à l'aisance, c'est la révolution sociale. Le droit au travail est tout au plus un bagne industriel. Il est grand temps que le travailleur proclame son droit à l'héritage commun et qu'il en prenne possession.